selon Hubert Védrine.
Bonjour Hubert Védrine, ce matin vous voulez nous parler des conséquences économiques et entrepreneuriales de la COP21.
Oui, je pense que c'est intéressant d'aborder la question de la COP21 qui a lieu en ce moment, cette négociation très importante au Bourget, sous la présidence de Laurent Fabius, extrêmement engagé dans cette affaire. Et on parle beaucoup de la négociation, de l'aide à apporter aux pays faibles ou pas encore assez développés pour qu'ils puissent s'adapter. On parle beaucoup du caractère contraignant ou non des conclusions de la COP dans quelques jours. On parle beaucoup des anticipations scientifiques, les conséquences du réchauffement à 1,5, 2, 3, 4 degrés. Et à mon avis, il faut compléter ces interrogations par une observation d'une formidable mutation qui s'amorce dans le monde économique. C'est d'autant plus important que tout le développement moderne depuis la révolution industrielle, qui a libéré les hommes, les femmes de la pénibilité du travail, c'est la machine à vapeur, c'est de l'énergie inépuisable, à bon marché, grâce à la combustion de quantités phénoménales de bois, de charbon, de pétrole, de gaz, etc. Bon, c'est ça en fait la révolution industrielle. Donc c'est fondamental de voir pas uniquement ce que disent les gouvernements, pas uniquement ce que négocient les diplomates, mais ce qui se passe sur le terrain réel de l'économie. Or, on voit aujourd'hui que même en l'absence de réglementation contraignante, en avance les innovations technologiques attendues, par exemple sur le stockage de l'électricité, et pas par philanthropie, mais par intérêt bien compris, le système économique globalement a déjà commencé à bouger. Quelles que soient les conclusions de la COP21 à Paris, plusieurs signes le manifestent. De plus en plus d'entreprises dans le monde, de premier plan considérable, se réunissent. Par exemple, en mai dernier à Paris, 1200 dirigeants d'entreprises mondiales étaient à Paris pour lancer une opération Business Climate Summit et pour dire qu'ils s'engagent encore plus dans l'économie circulaire, le recyclage. Alors évidemment, le nucléaire rappelle à cette occasion que le nucléaire émet très 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 peu, voire pas du tout de CO2. Bon, mais l'ensemble des géants mondiaux de l'énergie demandent un prix du carbone. Il y a une discussion, c'est très compliqué de fixer un prix global pour le carbone. La plupart des grands spécialistes et le prix Nobel d'économie français Jean Tirole dit que ça devrait tourner autour de 40 euros par tonne de CO2. Ça reste très compliqué, c'est un objectif. Ça ne sera sans doute pas fixé à Paris, mais après. Mais en tout cas, la quantité d'entreprises qui arrêtent de traiter ça comme un sujet marginal, un sujet de com, vous voyez, on fait du développement durable, ce qui est un slogan qui pendant très longtemps a été creux, en tout cas prématuré. Ça commence à devenir extrêmement sérieux. Autre signe, le mouvement de désinvestissement des énergies carbonées, à commencer par la question du charbon. Ça part d'un chiffre qui est frappant. Les pays du G20 subventionnent l'extraction des énergies fossiles à hauteur de 77 milliards par an. Subvention annuelle pour le changement climatique, donc énergie renouvelable, entre 4 et 5. 4 et 5 contre 77. Ça fait qu'il y a un mouvement au départ lancé par des associations, par des ONG, par des personnalités qui disent faut arrêter ça, notamment le charbon, qui est le problème numéro un. On en est à 500 institutions mondiales qui se sont engagées à désinvestir des fonds d'une importance énorme, dont le fonds norvégien, par exemple, qui annonce le désinvestissement. On en est dans la dernière année ou les deux années, là je suis pas sûr du chiffre, on en est à 4000 milliards de désinvestissement. On voit aussi la progression de l'investissement responsable. Donc globalement, ce qu'on appelle le monde de la finance, disons, a commencé à prendre un tournant qui est un tournant vert par rapport à ça. Bill Gates a créé un fonds écologique. Il va investir avec les plus grands milliardaires du monde dans cette direction pour des technologies nouvelles. Et Bill Gates dit quelque chose de très intéressant qui touche, non pas aux négociations diplomatiques, mais au fonctionnement de l'économie globale de marché. Il dit « Nous avons besoin d'un autre type d'investisseur privé, engagé à long terme vis-à-vis des nouvelles technologies et disposé à consacrer à cette entreprise un capital risque d'une souplesse et d'une patience, parce qu'il faut du temps, considérable. Le succès de cette entreprise constituera la preuve économique nécessaire à l'économie des énergies propres, dictée par le marché dont la vie de notre planète a besoin. » C'est-à-dire que le système marché en tant que tel, pas du tout pour des bons sentiments, pas du tout parce que, pour aller dans le sens de la mode actuelle, est en train de se dire et de dire et de prendre des décisions cohérentes par rapport à ça, que le charbon devient risqué. Le charbon devient risqué. Donc ce que je veux dire, c'est que dès lors que le système lui-même, des millions de décisions tous les jours, je traduis par le fait que ça devient risqué, absurde de continuer dans cette direction, que ça devient intelligent économiquement, que ça devient l'avenir du développement de l'économie, que ça devient plus rentable, en fait, d'aller dans ce sens, eh bien, ça veut dire qu'il y a une mutation géante qui va conduire à une véritable révolution au sens propre du terme, une écologisation de l'ensemble du système économique, et que la quantité de décideurs dans le monde qui pensent que le moteur de la croissance de demain est là, la croissance écologique, en fait, eh bien, c'est un événement absolument géant, indépendamment de la COP.
Donc, Hubert Védrine, c'est par intérêt et pas par altruisme que les dirigeants économiques vont se convertir à l'écologie?
Oui, pas que les dirigeants, l'ensemble des acteurs économiques, grands et petits. Et donc, c'est beaucoup plus solide que si c'était simplement un appel au bon sentiment.